L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 7h30, ce mercredi 6 février 1952. Dans quelques instants, l'Empire britannique de par le monde va se réveiller, se coucher ou prendre sa pause déjeuner en apprenant l'impensable. Le roi George VI est mort. Et par là même, immédiatement, la couronne change de tête. Élisabeth d'Angleterre devient la reine Élisabeth II. Ouais, seul problème, elle l'ignore encore. Ouais. Elle est à l'autre bout de la planète, représentant la couronne dans un long voyage de 4800 km. Nous sommes le 6 février 1952. Il est 7h30. C'est l'heure H de mon histoire. Le jour se lève sur la campagne du Norfolk. Le protocole quotidien, réglé comme du papier à musique lorsqu'il s'agit de la famille royale, se met en route. Le valet de pied de Sa Majesté, le roi George, prépare, comme à son habitude, le réveil du souverain, tandis que s'affairent déjà les cuisiniers. Des œufs à la coque, des mouillettes, un verre de lait et du thé. Le même rituel, jour après jour. Les aiguilles des pendules ou le déplacement du soleil dans le ciel sont les seuls facteurs qui prouvent que le monde, même celui des Windsor, bouge. Le navire amiral de Sandringham, rassurante résidence nichée au cœur de 8000 hectares de nature et d'animaux sauvages, accueille depuis quelques jours le souverain et sa famille proche. Exception faite d'Élisabeth et Philippe qui, depuis le 31 janvier, parcourent l'Empire en voyage diplomatique. Le roi a assisté à leur départ à l'aérodrome de Londres. C'est sa dernière apparition publique. Gravement malade, physiquement affaibli, sa famille lui a déconseillé cet ultime déplacement. Mais le roi, se sachant condamné, n'a pas hésité à venir dire au revoir à sa fille et son gendre, les héritiers du royaume. Le valet de pied, comme les autres, est préoccupé par l'état de santé de Sa Majesté, qui tousse de plus en plus et crache du sang dans son mouchoir brodé aux armes de la couronne. Au dehors, le jour se lève dans une brume caractéristique de la campagne anglaise. Résonne déjà à la cornemuse qui, chaque matin, indique au palais tout entier que le roi va être réveillé. En tête de cortège, le valet de pied, suivi de deux aides qui portent les plateaux de la collation royale, arrive devant la chambre du roi George VI. Comme d'habitude, il cogne deux fois et rentre. Ils ouvrent d'abord les rideaux de la pièce, aussitôt baignés d'une lumière blanche et vive. Il aime son souverain et aime être l'un des garants de ce quotidien immuable. En Angleterre, le protocole est l'un des trésors à préserver. Le souverain du pays est le phare dans la tempête. Il est aussi l'ombre qu'offrent les arbres les jours de forte chaleur. Il est le symbole de la continuité, de l'unité nationale aussi, et enfin, le gardien d'un temple que chaque sujet de l'Empire porte dans son cœur. Voilà pourquoi, jamais au grand jamais, la monarchie ne doit mourir. Voilà pourquoi la couronne est constamment posée sur une tête. À la mort du précédent, elle arrive aussitôt sur celle de son successeur. Le protocole, encore et toujours. Bonjour, Votre Majesté. Il est 7h30. Le valet de pied n'attend pas la réponse, qui tarde parfois à venir. Ces derniers temps, le roi est passablement fatigué dès le réveil, rattrapé par le poids des années, celle de la guerre notamment. La maladie, elle, gagne chaque jour du terrain, insidieusement. Il le sait. Les autres, au palais, le savent. Les politiques aussi. Tout réside dans le fait de préserver le reste des sujets de cet immense empire. L'homme prend le temps, religieusement, d'allumer les deux lampes de chevet situées de chaque côté de la royale couche. Et c'est à ce moment qu'il comprend instantanément. George VI, dans son sommeil, s'est éteint. Instinctivement, Son volet de pied saisi dans une extrême délicatesse comme une plume effleurant la peau, la main gauche du roi. Il la pose sur son torse qui ne se soulève plus, cherche son pouls, inexistant. Puis s'agenouille un instant devant le corps de celui qu'il sert depuis des années. Il tremble. Il tremble mais ne pleure pas. Après quelques instants d'égarement, il se précipite hors de la pièce, retrouve les deux valets portant les plateaux et leur ordonne de ne pas entrer. Il entre dans l'immense salle à manger où la mère du roi s'apprête à prendre ses médicaments. Le pilulier en main, elle s'effondre en apprenant la nouvelle. Tout de suite après, il va prévenir au saut du lit la femme du roi, la reine consort, qui dort dans une chambre attenante. Elle accourt à son chevet, étouffée par le poids du chagrin. Intriguée par le bruit, Margaret, leur fille, celle avec qui il a encore chanté près du piano du salon la veille au soir, comprend immédiatement ce qu'il se passe. Tous sont là, tous sauf une. La reine, la fille aînée de George VI, Elisabeth. Une course contre la montre démarre alors. Et oui, vite, vite, il faut prévenir Buckingham Palace. La chape de l'histoire s'est abattue sur la campagne anglaise et le son des cornemuses qui jouent ce matin-là accompagne la mort. Sur le mât de la plus haute tour de Sandringham, les couleurs royales seront rapidement descendues. Le protocole, encore et toujours. Downing Street, Londres. Le roi est mort depuis un peu moins d'une heure. Une traction s'arrête en faisant crisser ses pneus sur la chaussée. En sort le secrétaire particulier de Sa Majesté le roi qui se précipite au sein de la résidence du Premier ministre. Faisant fi de la bienséance, il pénètre dans la chambre de l'homme qui dort du sommeil du juste. Cet homme, c'est Winston Churchill. Ce dernier, une fois prévenu, est dévasté par la perte d'un souverain qui était aussi un fidèle ami. Il se remémore durant quelques minutes toutes les épreuves passées ensemble, entre les bombardements de Londres et la victoire totale sur l'ennemi nazi le 8 mai 1945. Son cœur s'emballe, et sa femme, tendrement, le tire de ses songes. Dans sa robe de chambre à carreaux, l'homme fort du pays prononce ses mots entre deux sanglots. Appelez le secrétaire d'État et dites-lui Hyde Park Corner, il saura ce que ça veut dire. Voilà le nom de code de l'opération concernant le décès du souverain, permettant ainsi de n'éveiller aucun soupçon, parce que la nouvelle ne doit pas encore se répandre. Il se ressaisit. La tristesse n'a jamais été pour lui un moteur, alors le Premier ministre s'enquiert auprès de l'émissaire du palais de la situation de la nouvelle reine. Est-ce qu'elle est au courant ? Eh bien, il semblerait que non. Mais où est-elle ? Eh bien, nous ignorons à l'heure actuelle sa position précise. Enfin, il faut la prévenir avant que la nouvelle soit rendue publique. Et déjà tous, des services secrets au personnel de Buckingham, n'ont que cet objectif en ligne de mire. La retrouver. Kenya, au cœur de la savane, près de Nairobi. Le décalage horaire entre ce pays d'Afrique et Londres est de 2 heures. Le soleil est donc déjà levé au moment où la chape s'abat sur les esprits du palais et du gouvernement britannique. Elisabeth, elle, ignore encore que son destin se joue sans qu'elle y soit conviée pour le moment. La BBC fait pression pour l'annoncer. Il faut faire vite. Poussé dans ses ultimes retranchements, Churchill finit par donner son accord. Bientôt, la nouvelle sera connue de tous. C'est ainsi que le secrétaire particulier de la nouvelle reine l'apprend à la radio de son hôtel. La reine, elle, n'est toujours pas revenue de son safari. Elle est partie depuis la veille. Il saute dans la première voiture et se précipite à sa rencontre. La voiture frôle l'accident à plusieurs reprises et enfin arrive à bon port. Il trouve sur place Elisabeth en train d'écrire une lettre à son père. le secrétaire opte pour une autre option. Annoncer la mort du roi au prince Philippe. Bien entendu, le mari de la reine tombe des nues, mais se reprend aussitôt. Il faut l'avertir. Il faut l'avertir vite. Alors qu'il s'apprête à entrer dans la maison, elle sort sous le porche, sa lettre dans les mains. Et d'un regard, comme c'est souvent le cas entre les deux époux, ils se comprennent. Dans une étreinte, il la couronne d'un baiser sur le front. Et par ce geste, il la fait entrer dans l'immortalité de ceux qui sont appelés à régner. Il est un peu plus de 10 heures au Kenya. Et Lilibet, son surnom au sein du microcosme familial, est devenue la reine Élisabeth II d'Angleterre. Margaret, sa sœur, elle, chevauche à plein galop, tentant de se défaire de la tristesse et de la désolation qui viennent de la marquer au fer rouge. Le visage enfoui dans le crin de son étalon préféré, ses larmes sont celles d'une nation tout entière. Nous sommes le 2 juin 1953, il est 10h50. Enfin, 16 mois après la mort de son père, la reine Élisabeth II s'apprête à être couronnée à Westminster. Le chemin vers le sacre fut long et rude. La jeune souveraine, en quête de modernité et d'affirmation, a souhaité bousculer l'ordre établi par le protocole. Pour chaque couronnement, un comité chargé de piloter la bonne organisation de l'événement est mis en place. À sa tête, et depuis des temps immémoriaux, c'est le duc de Norfolk dont c'est le rôle de père en fils. Mais cet homme, vieillissant et obsédé par le respect de l'étiquette, n'est guère à l'image de la virevoltante jeunesse que souhaite incarner Élisabeth. Alors elle impose son mari, le prince Philippe, à cette charge. Tollé dans l'aristocratie qui essaie de faire intervenir Churchill, dont le pouvoir de persuasion a fait ses preuves. Mais rien n'y fait. La reine ne renonce pas au détriment des codes. Les tensions entre le futur prince consort et le Premier ministre sont claires sur plusieurs points. Le premier d'entre eux est le souhait de Philippe de retransmettre le couronnement en direct à la télévision. Ce serait une première. Mais Churchill est contre cette idée. Et de nouveau, la souveraine tranche en faveur de son mari. Et voilà qu'en ce mois de juin 1953, le moment du grand saut est arrivé. Il y a 30 minutes, le Gold State Coach s'est installé devant la porte du vestibule de Buckingham Palace. Et vous ne pouvez imaginer l'aura et la magnificence que dégage cette voiture à cheval, fabriquée en 1762 et recouverte de feuilles d'or. Un poids total de 4 tonnes, tiré ce matin par 8 chevaux immaculés, tous sélectionnés par le prince Philippe en personne. Des panneaux peints ornent les portières. De magnifiques statues épousent la forme de la structure et une banquette de velours rouge, elle, est là pour accueillir la souveraine. Élisabeth dira plus tard que ce trajet au sein de ce mastodonte a été horrible. Comprenez, peu confortable. Elle préfère de loin le State Lando, plus simple, moins rutilant. Mais aujourd'hui est un jour particulier. Parce qu'aujourd'hui, elle va être couronnée. La foule particulièrement nombreuse qui se tient de part et d'autre de la route en direction de l'abbaye de Westminster est en délire. Des sujets de tous les âges, de toutes les conditions, se pressent contre les barrières. Plus de 3 millions de personnes déferlent dans les rues de Londres. Des dizaines de millions d'autres sont face à leur poste de télévision. Parmi eux, reclus dans son château en France, le duc de Windsor, l'oncle de la reine, le frère aîné de George VI, a un jour été roi d'Angleterre. Mais il était amoureux d'une femme divorcée, qu'il souhaitait plus que tout épouser et, proche des cercles nazis avant la guerre, il a été poussé à l'abdication avant même son couronnement. Alors qu'il espérait pouvoir assister au mariage, il en a été exclu. La reine et le duc d'Édimbourg, son mari, eux, arrivent bientôt à la hauteur du grand portail ouest de Westminster. Les équipes de télévision à l'intérieur de l'abbaye sont prêtes. Derrière les écrans, les techniciens s'affairent dans ce lieu séculaire de la royauté britannique. Dans la nef, les chœurs chantent et tous, transpirant de stress et portant le poids de l'histoire sur les épaules, attendent l'héroïne du jour. À sa descente du carrosse, on lui réajuste sa tenue. Sa robe a été dessinée par Hartnell et une tunique en lin blanc recouvre cette dernière. Par-dessus cet ensemble déjà complet, elle porte, accrochée aux épaules, une cape en velours cramoisi, bordée d'hermine et recouverte de filigranes d'or. Sur sa robe sont brodés un symbole pour chaque pays dont elle est la souveraine, du chardon écossais au trèfle irlandais en passant par la feuille d'érable canadienne. Rien n'a été laissé au hasard, absolument rien. À son arrivée, la souveraine est accueillie porte ouest de l'abbaye par l'archevêque de Canterbury. C'est lui, comme d'habitude, qui officiera durant la cérémonie. Au sol, un immense tapis rouge sépare les invités, près de 8000, assis de chaque côté de l'allée. Derrière elle, les 6 dames d'honneur viennent clore le cortège en portant sa traîne. Et puis, la garde est là, elle aussi, et accompagne l'entrée de celle qui s'apprête à devenir immortelle. Élisabeth II passe le long de toute l'aristocratie, des membres des chambres législatives aussi, et Churchill, au premier rang, ajuste sa cravate et, au passage de sa nouvelle reine, les yeux embués, émus, il s'incline. Ce n'est pas le premier couronnement auquel il assiste, mais il comprend d'instinct que cette reine-là prendra toute sa place dans le cœur de la population. Que cette reine-là jouera un rôle primordial dans l'évolution du royaume. Que cette reine-là va marquer à jamais de son empreinte la notion même de grandeur. Au sud de l'hôtel, elle s'assoit maintenant sur la chaise d'apparat. À l'horizon, elle aperçoit celle du couronnement qui l'attend un peu plus loin. Elle vit ce moment au fur et à mesure, mais sans pleinement profiter de l'instant présent. La pression est telle qu'elle porte cette robe comme une armure médiévale qui viendrait l'écraser de tout son poids. Alors qu'elle contemple l'assistance et les représentants de l'Empire et leurs bannières, 4 chevaliers de l'Ordre de la Jarretière, institution aussi ancestrale que noble, s'avancent dans leur tenue traditionnelle. Le duc de Wellington, de Portland, le comte de Fortescue et le vicomte d'Arundel apportent un baldaquin doré afin d'abriter Élisabeth des regards. En effet, bientôt l'onction aura lieu et ce geste consacré entre tous ne peut être vu des yeux indiscrets. C'est à cet instant que tout se décide. La ferveur, le solennel et le sacré se rejoignent et se mélangent. De princesse, elle devient reine. Et sa personne, elle, n'existe plus. La fonction prend toute la place, sans aucun compromis possible. Les simples mortels ne peuvent donc y assister, même du regard. Que vos mains soient ointes avec l'huile sainte. Que votre poitrine soit ointe avec l'huile sainte. Que votre tête soit ointe avec l'huile sainte, comme les rois, les prêtres et les prophètes ont été oints, et comme Salomon a été oint et fait roi par Sadoc, le prêtre, et Nathan, le prophète. Soyez vous aussi ointe, bénie et sacrée reine sur tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, vous a donné à diriger et à gouverner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Élisabeth, simplement, répète cet Amen au milieu des globes et des orbes. La symbolique en devient magique. La poésie remplace la prose, la divinité de la fonction remplace le corps et l'esprit. Élisabeth, faite reine avec la couronne de Saint-Édouard, est installée maintenant sur la chaise du trône. Résonnent dans l'abbaye les cris de « Dieu préserve la reine !» Enfin, le prince Philippe vient s'agenouiller devant son épouse, maintenant devenue sa souveraine. Il prononce ces mots. « Moi, Philippe, duc d'Édimbourg, je deviens votre obligé corps et âme, votre dévoué serviteur. En toute loyauté et fidélité, je m'engage à vivre et à mourir pour vous, à vous défendre contre des ennemis de toutes sortes, avec l'aide de Dieu. » Il se relève, l'embrasse sur la joue avec hésitation et s'incline. La cérémonie, elle, est terminée. La sortie d'Élisabeth II marque la fin de la procession. L'hymne du pays, God Save the Queen, résonne lui aussi de toute sa force. Ainsi commença le règne d'une femme qui, rapidement, saura imposer sa force et sa volonté dans ce qui est le plus précieux pour l'Empire britannique, la continuité et la grandeur.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je retrace avec vous l'heure H d'un destin hors du commun, celui de la reine Élisabeth II d'Angleterre. Couronnée en 1952, elle incarne rapidement la force et dispose de la stature nécessaire pour s'imposer face aux politiques et aux premiers ministres qui se succèdent les uns après les autres. Avec le premier d'entre eux, Churchill, rien que ça, elle a appris à gérer les fauves, aux griffes et aux dents longues. Le temps passe. Sa famille se construit et se développe. Elle devient la mère de 4 enfants, dont Charles, l'héritier, destiné à régner après elle. Avec son mari, Philippe, toujours à ses côtés, les années s'égrènent et rien ne semble pouvoir bousculer le quotidien protocolaire de la famille royale. C'est sans compter sur une année noire qui, bientôt, viendra faire tanguer le navire de la couronne. Nous sommes le 24 novembre 1992. Il est 11h. La reine qui fête ses 40 ans de règne cette année se trouve à Guildhall, au cœur de la City de Londres. Ses cheveux bouclés et blanchissants descendent légèrement le long de ses oreilles. Le rouge feu de son tailleur ne peut dissimuler les cernes sous les yeux de Sa Majesté. Pour cet anniversaire particulier de 4 décennies à la tête du pays, un banquet est organisé au cœur de Londres. Elle doit y prononcer un énième discours et l'a minutieusement préparé. Le Premier ministre de l'époque, John Major, l'a rejoint pour l'occasion. C'est déjà le 9e qu'elle côtoie. Celui qui succède à la dame de fer, Margaret Thatcher, lui plaît plutôt bien. Derrière de grosses lunettes rectangulaires, charismatique et flegmatique à souhait, il est beaucoup plus calme. Voilà 2 ans que leurs entrevues hebdomadaires sont synonymes de respect et d'écoute. Bien qu'il soit membre du Parti conservateur, elle apprécie son approche et sa manière modérée de gérer les dossiers. Il vient d'ailleurs de remporter une élection qui semblait perdue d'avance. Il salue la reine à son arrivée à Guildhall et l'accompagne à l'intérieur. Là, tout le gratin de la métropole londonienne attend la souveraine et sa prise de parole en préambule du festin à venir. Sur les tables, trône de la volaille, du roast beef et des pommes de terre dauphine. Les nappes blanches et brodées traînent au sol et les serveurs, en grande livrée, droits comme des i, attendent eux aussi le coup d'envoi. Une estrade aux armes de la couronne a été installée et péniblement, Élisabeth s'y hisse et ajuste ses notes. Tous dans l'assistance remarquent à quel point la reine semble fatiguée, usée. Alors que l'année précédente encore, Elle ne portait pas ses 66 ans, l'année 1992 l'a visiblement marquée. Et c'est peu de le dire. Éclaircissant sa voix dès son introduction et sans frioriture, la reine précise sa pensée. 1992 n'est pas une année dont je me souviendrai avec plaisir. Comme le dit l'un de mes correspondants, ce fut véritablement une annus horribilis. Annus horribilis, l'année horrible. Les mots sont lâchés. Alors qu'elle continue son discours, le duc d'Édimbourg et prince consort, Philippe, se remémore avec effroi les événements terribles de ces derniers mois. Rien n'aurait laissé supposer un tel enchaînement de catastrophes. Une menace pour la stabilité de la famille régnante. Si aujourd'hui le climat semble apaisé, on a bien cru que ce 40e anniversaire de règne allait sonner le glas de leur légitimité. Tout a commencé avec la sortie d'un livre dont le monde se serait bien passé. Depuis 1991 déjà, la famille a été informée de la rédaction d'un ouvrage par Andrew Morton qui concerne l'électron libre de la famille, Lady Diana. L'épouse du prince Charles, héritier du trône, n'a jamais été à l'aise parmi les Windsor. Bon, c'est un secret pour personne, ni dans l'opinion, ni dans la famille royale. Le couple bat de l'aile. Les deux jeunes gens viennent de deux univers différents et ont des aspirations et des rêves totalement opposés. Charles est même au cœur de rumeurs qui courent depuis plusieurs années. Lui et Camilla Parker Bowles entretiendraient une relation. Secrète, semble-t-il, du moins en apparence. Personne n'est dupe dans le pays. Au cœur de ce bourbier, Diana a suivi de près la publication de cette biographie, à laquelle elle n'a pas participé officiellement. Le tollé médiatique à la sortie du livre est total. La reine est d'ailleurs persuadée qu'elle a pu téléguider les informations qui s'y trouvent. Le 6 juin, alors qu'il sort dans les bacs, les librairies sont rapidement dévalisées. Les extraits sortis dans la presse les jours précédents donnaient l'eau à la bouche des lecteurs. Cela dit, paniquée, Lady Di avait alors cherché du soutien auprès des membres de l'entourage royal, leur demandant ce qu'elle pouvait faire. Plus rien, hélas. Les dés sont jetés. Le scandale, lui, est en marche. Tout y passe. Tout. De ses troubles alimentaires aux infidélités communes durant leur mariage. Charles passe pour un ignoble méchant et la couronne en prend un sérieux coup. Deux mois après la publication du livre, les époux se séparent officiellement. La reine, qui a toujours tenu le choc dans les épreuves conjugales, nombreuses avec Philippe, n'est pas au bout de ses peines. Deux autres de ses enfants rompent leurs vœux. Le divorce de la princesse Anne est prononcé en avril 1992 et le prince Andrew quitte Sarah Ferguson à la suite d'un scandale, là aussi. Des photos publiées par un tabloïd la montrent avec son amant texan au bord d'une piscine, en train de se faire embrasser les doigts de pied. Je vous laisse imaginer la réaction du palais. Scandalisée, outragée, la reine encaisse mal les trois séparations successives de ses enfants, et ce d'autant plus que Andrew est son fils préféré. Ses relations avec Charles, elles, ont toujours été plus distendues. Le rôle d'héritier de son aîné implique une distance qu'elle s'efforce d'entretenir. Lui, il idolâtre sa mère, au point de la mettre sur un piédestal serti d'or et de diamants. Le scandale lié à Diana les a rapprochés, et elle tâche depuis d'être plus présente dans la vie de son héritier. Voilà déjà de quoi fatiguer une reine qui supporte mal l'accumulation de toutes ces catastrophes. Mais le coup de grâce, lui, est arrivé quelques jours auparavant. La famille royale est propriétaire de plusieurs résidences à travers le pays. Le château préféré de la reine est de loin celui de Windsor. Elle déteste la froideur et l'immensité sobre de Buckingham Palace. Dès qu'elle le peut, elle fuit la ville de Londres pour s'y réfugier. Il y a 4 jours, le 20 novembre, elle reçoit un appel sur sa ligne privée. Au bout du fil, Andrew, qui séjourne, l'appelle depuis les écuries de Windsor. Certains des plus beaux chevaux de la reine s'y trouvent. Il est 11h45 lorsque, paniqué et haletant, il apprend à sa mère que le château est en feu depuis déjà une demi-heure. Un projecteur resté allumé contre une tenture dans la chapelle privée de Sa Majesté a suffi à enflammer le brasier. Immense, tout de suite. Inarrêtable aussi. Pendant près de 16 heures, les flammes vont dévorer la quasi-totalité de l'immense édifice. Peu après le milieu de l'après-midi, Elisabeth est arrivée sur les lieux, totalement dévastée. Les pompiers semblaient maîtriser une partie de l'incendie, mais rien n'y a fait. Et ce n'est qu'à 2h30 du matin que les derniers feux secondaires sont enfin éteints. Le lendemain matin, dès 6h, Elisabeth II ne peut que constater les dégâts considérables. Et moralement, pour elle, c'est l'épreuve de trop. Seule son extraordinaire stature de femme d'État et de chef de clan lui permet de garder le cap. Une nouvelle fois, sa force de caractère, phare dans les abîmes, va préserver sa famille. Et plus important encore, la couronne. L'année 1992 n'est bien entendu pas la plus représentative de la deuxième partie du règne de la souveraine. Pour autant, alors que les premières décennies sont marquées par sa capacité à être un moteur pour le pays, les difficultés qui découlent de ces scandales à répétition auraient pu fragiliser la position de la monarchie. 5 ans plus tard, alors que son ex-belle-fille est victime d'un accident de voiture et qu'elle tarde à prendre la parole, l'opinion se retourne contre elle et contre la couronne. Sans l'insistance de Tony Blair, premier ministre de l'époque, elle ne lui aurait certainement pas accordé les funérailles nationales qui ont eu lieu. Mais comme à chaque fois, sa capacité unique à rebondir lui a permis de reconquérir le cœur des Britanniques. Néanmoins, le poids des années, lui, se fait de plus en plus sentir.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous vivons aujourd'hui l'heure H d'un règne qui marqua pour toujours l'histoire de son pays et celle du monde. Celui d'Elisabeth II, figure tutélaire du Royaume-Uni pendant près de 3/4 de siècle. Cette longévité exceptionnelle s'allie à sa capacité à incarner stabilité et force dans un empire qui s'étiole au fil de son règne. Le protocole, le poids de la tradition et l'héritage qui subsiste grâce à elle sont eux immortels. Nous sommes le 9 avril 2021. Le jour est levé depuis un peu plus de 2 heures. Il pleuvait à Windsor. Et maintenant que le soleil perce, enfin les nuages, un arc-en-ciel se forme non loin de la fenêtre obscurcie du château. La reine Elisabeth est au chevet de son mari, le duc d'Édimbourg. Philippe, prince consort du royaume, son roc, comme elle l'appelle, paisiblement se meurt. Elle lui tient la main. Ultime geste d'affection entre deux inséparables qui ont vogué à travers l'histoire comme aucun couple avant eux. Certaines rumeurs l'ont qualifié de volage et parfois leur relation a semblé tanguée. Mais cette équipe-là était indestructible. Et au fond, jamais ils n'auraient pu chavirer. Depuis l'enfance, ils se connaissent. N'ont pas eu à apprendre à s'aimer. Elle l'a choisi comme une évidence. Et lui, toujours 2 pas derrière elle, l'a toujours soutenue, systématiquement empêchée de tomber sous le poids des responsabilités posées sur ses épaules. Mais aujourd'hui, le héros, c'est lui. 3 mois avant son 100e anniversaire, celui qu'on présentait comme immortel rejoindra bientôt les autres figures de la jeunesse d'Elisabeth. Elle a perdu son père, il y a déjà bien longtemps, sa sœur Margaret et, 1 mois plus tard, sa mère. Parfois, elle les imagine encore dans les couloirs du palais, perçoit les rires et les échanges aujourd'hui effacés. Les parfums, les bruits de pas, tout s'entremêle et se confond. Philippe resserre l'étreinte dans sa main. Il a passé 1 mois à l'hôpital à la fin de l'hiver. Depuis 2017, des problèmes cardiaques de plus en plus présents l'ont contraint à se retirer de la vie publique. Il a assisté à 3 mariages de ses petits-enfants, dont celui de Harry, et c'est tout. Et il s'est rapproché de Charles, le seul autorisé à venir le voir à l'hôpital, et voyant la fin approcher, lui a transmis les dernières bribes de l'héritage. Il ne voulait pas mourir à Buckingham. Elle non plus, d'ailleurs. La Covid, dans sa fureur meurtrière, les a obligés à se préserver et ils se sont installés à Windsor. Elle est devenue une pro des visioconférences et lui s'est muré dans la discrétion des sages. Opéré du cœur en mars, il n'a jamais vraiment repris le dessus. Mais sa sagacité et son sens de la prestance l'ont maintenu quelque temps. Depuis quelques jours, cependant, la fin était devenue inévitable. Il a les yeux clos, mais il respire encore, calmement. Les médecins, Charles, Camilla, sont là, avec elle. Mais Elisabeth ne voit personne d'autre que son mari, assise sur sa chaise au bord du lit. Elle parcourt dans son esprit leur voyage dans l'Empire, les bons moments passés ensemble et les balades à cheval ou en voiture. Elle espère qu'il a ces images, lui aussi en tête, au moment du dernier voyage. Alors que Charles regarde au dehors l'arc-en-ciel qui se dissipe, Philippe, lui, fait le grand saut. Avec discrétion et flegme, comme à son habitude, il s'éclipse, prend la porte dérobée, descend les escaliers de marbre et s'envole parmi les oiseaux, libre. Enfin, il est libre. Il n'a pas toujours aimé ce rôle au second plan, mais il y sera toujours resté fidèle. La reine, elle, va devoir continuer son chemin, seule, isolée de la seule personne qui l'a comprise, aimée telle qu'elle était. Il était le dernier qui avait accès à Lilibet, la personne derrière la couronne, la femme derrière le sceptre. Une photo est posée à côté d'elle, lors de son discours après le décès de son mari à la télévision. Jamais plus elle ne va la quitter, la passant de bureau en bureau, d'une table de chevet à une autre, et secrètement, et malgré son sens du devoir unique, elle se dit de temps à autre qu'elle espère le retrouver bientôt. C'est chose faite depuis le 8 septembre 2022. Elisabeth II n'est pas morte à Londres, au sein du palais froid de Buckingham, ce qu'elle voulait éviter. Elle n'a pas quitté le monde des vivants au château de Windsor non plus, comme son bien-aimé. Non, elle est morte en Écosse, au sein des vieilles pierres de Balmoral, l'une de ses résidences. Son fils, jusqu'alors prince de Galles, est devenu le roi Charles III. Comme avec son père avant elle, la couronne, dans sa quête d'immortalité, a changé de tête sans attendre. 70 ans d'un règne, célébré lors d'un jubilé il y a quelques mois qui aura incontestablement marqué l'histoire d'un pays duquel elle a été le guide. Sous-lieutenant durant la Deuxième Guerre mondiale, cette reine unique, celle-là même qui un jour dansa avec le président des États-Unis afin de mener à bien des négociations, la première qui enregistrera des discours télévisés à l'attention de ses sujets, passe le flambeau naturellement. Son héritage est immense. Symbole pour les femmes d'une réussite et d'une poigne inégalée face à un monde patriarcal, elle sut montrer la voie à bien des vocations féminines. Bien malgré elle, parfois, elle a ouvert la voie de l'émancipation des femmes. D'un point de vue politique, elle a donné à la monarchie ses lettres de noblesse. Grande amoureuse de chevaux et de nature, elle s'est battue pour la préservation de certaines races et de certaines traditions qui persistent grâce à elle. Elle a souvent contribué, malgré cet impératif de neutralité qui incombe au souverain, à débloquer des situations politiques périlleuses. Elle a su cohabiter de manière intelligente avec des monstres politiques de son temps, de Winston Churchill à Margaret Thatcher. Elle a toujours maintenu, enfin, la droiture et la posture que nécessite l'excellence. Ce métier, celui de souverain, elle l'a transformé. Elle l'a modernisée, tout en conservant avec mesure cette distance qui rend la monarchie si particulière. Pour les Britanniques, elle était leur reine. Pour le reste d'entre nous, elle était la reine. Ces mots d'Emmanuel Macron résument bien, au fond, le sentiment général à la disparition d'une telle héroïne. Tous, Tous, nous avons grandi avec elle, en quelque sorte, tant elle a fait partie du paysage de nos vies pendant longtemps. Alors pour conclure aujourd'hui cet épisode de leur hache, et alors que le Royaume-Uni est toujours en période de deuil national, laissons, si vous le voulez bien, la parole au nouveau roi Charles III. Lors de sa première prise de parole à destination des Britanniques endeuillés, il a ces mots, ceux d'un fils pour sa mère. Il a dit « Pendant toute sa vie, Sa Majesté la Reine, ma chère maman, était un exemple pour moi et pour toute ma famille. À ma maman chérie, alors que tu commences ton dernier voyage pour rejoindre mon défunt papa, je voudrais te dire simplement ceci. Merci. Merci pour ton amour et ton dévouement à notre famille. Que des anges bercent ton repos. » Le temps file, les gens disparaissent. Mais la monarchie, elle, jamais ne se meurt. Elle est immortelle. La reine est morte. Vive le roi! Voilà donc pour ce récit prenant et palpitant que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la complicité de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.